Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast? Eh bien dites-le, likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite, laissez un avis et surtout parlez-en autour de vous. Connaissez-vous Lisa? Lisa, c'est la fondatrice de la marque de produits capillaires Lao. Sa mission, résoudre vos problèmes de cheveux avec des produits naturels, avec le maximum d'explications, de transparence et bien sûr d'honnêteté. Ensemble, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vient malheureusement ternir l'image de la cosmétique naturelle et qui lui tient très à cœur. Je parle bien sûr du greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? Comment reconnaître des allégations trompeuses ou excessives en cosmétique? Lisa partage avec nous sa vision d'une cosmétique naturelle, honnête et transparente et nous donne ses astuces pour éviter les pièges. Bonjour Lisa.
Bonjour Elodie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer ce podcast. Alors, tu es la fondatrice de la marque Lao, qui actuellement a lancé deux premiers produits qui sont des shampoings à base de protéines de chanvre. Est-ce que tu peux nous présenter vraiment le concept de ta marque?
Bien, le concept de la marque Lao, c'est tout simple, c'est réinventer le naturel en liant science et nature, donc faire du naturel basé sur la science et basé sur la preuve pour aider à résoudre les problèmes de cheveux des gens. Parce que c'est pas normal qu'en 2022, on ait encore tous des problèmes de cheveux.
La marque, au-delà de répondre à des problèmes, on va dire, capillaires, elle est porteuse de valeurs et ça reflète ta personnalité puisque tu es quelqu'un de profondément engagé pour une cosmétique éthique, honnête, transparente. Ça se ressent dans ta marque et dans la communication que tu fais autour des produits. D'où te vient cet engagement?
Bien, c'est un engagement personnel, hein. Là-haut, c'est aussi moi, d'autant plus que je suis solo fondatrice. Donc c'est profondément axé autour de mon caractère à moi et j'ai, on va dire, des valeurs qui sont autour de la transparence, notamment de l'audace. Et la transparence et l'éthique, ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. D'une part parce que j'ai été élevée là-dedans, donc c'est familial, et aussi parce que je suis très sensibilisée à tout ce qui est protection de l'environnement, parce que je suis plongeuse sous-marine. Je plonge jusqu'à 35 mètres, j'ai pu plonger dans beaucoup de régions du monde, en Thaïlande, en Égypte, au Mexique, en Grèce, et j'ai pu voir des choses magnifiques, et j'ai aussi pu voir des déserts de coraux abîmés par le réchauffement climatique, par l'impact humain. Et c'est aussi comme ça que je me suis sensibilisée à l'impact des cosmétiques sur l'environnement et cette nécessité d'être plus transparent avec nos clients, comme j'aurais aimé qu'on le soit avec moi en 2019 quand j'ai voulu moi-même passer au naturel. Et cette nécessité de donner les clés aux clients pour qu'ils comprennent son impact et qu'ils puissent agir en conséquence et consommer en conséquence, même si on n'est pas parfait, qu'on puisse au moins comprendre.
Et pourquoi avoir choisi le capillaire pour commencer ton aventure et changer un petit peu notre façon de consommer de la cosmétique?
Alors, tout simplement parce que ça m'est un peu tombé dessus. C'est-à-dire que moi, en 2019, donc j'étais étudiante, j'étais en stage chez un acteur majeur du secteur cosmétique. Et en fait, c'est tout simplement parce que ça m'est arrivé, moi, un problème de cheveux. Bon, moi, j'avais jamais trop de problèmes de cheveux, à part des cheveux assez gras et que je pensais que je pouvais rien faire contre ces cheveux gras. Et en passant au naturel, je me suis rendu compte que j'avais des cheveux encore pires. C'est-à-dire que ça me faisait des cheveux poisseux. Je trouvais pas la réponse à mes questions. En plus, comme je travaillais en développement produit, je comprenais les allégations marketing. Donc, j'allais chercher des réponses et je trouvais que les marques n'étaient pas assez transparentes sur l'origine de leurs matières premières. Je voyais le greenwashing, je voyais des choses qui me plaisaient pas du tout. Et donc, j'ai décidé d'aller apporter une nouvelle touche spécialisée dans le capillaire pour aller répondre à ces problèmes de cheveux qui, moi, m'ont fait souffrir pendant longtemps parce que je complexais d'avoir les cheveux qui graissaient vite et pour aller aider toutes les autres personnes autour de moi à passer au naturel parce que c'était aussi ça pouvait être plus écologique. Et je nuance le bien, ça peut être plus écologique.
Justement, on va parler de cet engagement et de cette volonté de transparence, voire même de pédagogie vis-à-vis du consommateur, parce que le thème de notre podcast aujourd'hui ensemble, c'est bien sûr le greenwashing. En quelques mots, comment tu définirais le greenwashing?
Alors pour moi, faire du greenwashing, c'est utiliser des arguments marketing trompeux, donc faussement axés sur l'écologie. Ça, on va verdir son image, on va vendre des produits, surfer sur une vague écolo, une vague green, pour essayer de taper dans la conscience des gens, dans le fait de leur donner bonne conscience, alors que derrière, c'est un peu du vent.
Et alors concrètement, quelles sont selon toi les pratiques qu'on pourrait qualifier de greenwashing dans le monde cosmétique actuellement ?
Alors pour moi déjà, il y a l'utilisation du bio à tout va. Hein. Bio, ça a sa définition, hein. Ce sont des règles dans la culture de certains ingrédients. Le bio va s'appliquer à des ingrédients souvent très bruts, comme par exemple des huiles, des hydrolats, qui pourtant ne constituent pas forcément la totalité d'un ingrédient cosmétique, qui peut aussi être composé d'eau, composé de glycérine, composé d'alcool gras, plein de choses, d'agents lavants qui eux ne sont pas forcément, sont rarement bio, voire pas du tout. Et donc, dire que tout un produit est bio parce que les ingrédients d'actifs végétales qui représentent une proportion plus ou moins grande sont bio, ça a tendance à verdir l'image totale du produit alors que c'est pas forcément vrai. D'autre part, quand on dit bio, on a tout de suite l'impression que c'est plus éthique, que c'est plus responsable. Or, si on fait du bio, mais avec un actif qui est récolté dans la montagne, au fin fond de je ne sais où, par des personnes où il n'y a aucune traçabilité sur l'éthique du travailleur, où il n'y a aucune traçabilité sur la déforestation, notamment, pour moi, c'est pas écologique, c'est pas spécialement bio dans l'image du consommateur. En tout cas, l'idée, c'est qu'on utilise souvent le mot bio à tout va, alors que des fois, ce sont des actifs de remplissage. Je pense notamment à la poudre d'aloe vera qu'on met des fois dans des produits alors qu'elle n'a aucune utilité, juste elle va rehausser le taux de bio. Donc des fois on fait ça dans certains produits cosmétiques. Pour moi c'est pas une pratique intelligente parce qu'on va consommer une plante inutilement qui vient en plus de loin et qui va juste être là pour faire augmenter des taux de bio. Donc ça c'est la première chose. Pour moi, donc, il faut absolument qu'il y ait un label parce que les labels vont venir réglementer cette utilisation des termes bio et vont venir aller chercher du bon sens dans la formulation.
Est-ce que les labels, justement, c'est pas une solution pour apporter de la lisibilité aux consommateurs ? Il faut les expliquer, les labels, notamment le fait qu'un produit bio ne contient pas 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, mais à minima 20% pour les produits non rincés. Mais est-ce que c'est pas une façon d'apporter la lisibilité, de clarifier les choses ?
Totalement, si, les labels permettent de définir un cadre réglementaire. Alors, il y a toujours ceux qui surfent avec le réglementaire, on connaît, hein, ceux qui vont mettre vraiment la limite de bio pour passer, la limite de naturel, qui vont aller vraiment au bas du panier parce que ça évite d'avoir un produit trop cher aussi. Il faut prendre ça en compte. Mais oui, les labels permettent au moins d'avoir un début de cadre légal et de redonner un peu confiance aux gens. Donc, c'est hyper important. Ouais, c'est un très bon début, même si les labels, des fois, gagneraient à être un peu plus stricts, je trouve.
Alors, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant sur l'impact d'un produit ou d'un ingrédient bio, parce que bio, ça ne veut pas forcément dire éthique, ça ne veut pas forcément dire bon pour l'environnement, parce que du bio qui vient de l'autre bout du monde, on ne connaît pas ni son empreinte environnementale, ni la façon dont il a été produit. Est-ce que tu ne crois pas que les associations d'idées, c'est quelque chose de dangereux qui peut amener finalement un peu à tromper le consommateur ? Je prends un exemple tout simple, hors de la cosmétique naturelle. Mais quand on dit qu'un cosmétique, il est vegan, systématiquement, on va penser que ce produit, il est d'origine naturelle, il est éthique, alors qu'en fait, un produit cosmétique peut très bien être vegan et être constitué d'ingrédients issus de la pétrochimie, de silicone et j'en passe.
Absolument, et d'ailleurs, bon, d'un point de vue 100% subjectif et juste à moi, ceux qui se proclament le plus vegan sont souvent ceux qui sont le moins naturels, voire pas du tout spécifiquement naturel ou éthique. Et pour moi, le naturel, ça ne suffit pas. Le naturel, c'est un concept qui fait beaucoup, comme tu dis, qui est beaucoup associé à l'écologie. Or, faire du naturel avec 100% d'ingrédients de l'autre bout du monde, ça fait pas forcément sens. Donc, il faut faire du naturel, oui, mais avec du bon sens. Et venir chercher des plantes qui n'ont pas un impact écologique trop fort, qui vont pas déforester ou au minimum, qui vont vraiment être pensées de bout en bout sur toute la chaîne de valeur. C'est naturel, c'est bien, mais naturel, ça veut juste dire un caractère d'origine naturelle, donc qui vient de la nature, par opposition à pétrochimique. Mais derrière, il y a plein de choses. Il y a des travailleurs, derrière, il y a une chaîne de valeur, derrière, il y a de la culture, il y a peut-être des pesticides, il y a plein de choses derrière le naturel. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et vegan, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. C'est extrêmement facile à faire. Derrière, ça garantit en rien que le produit est écologique ou qu'il est naturel même.
Donc finalement, il faut qu'on aille creuser un petit peu derrière cette mention naturelle pour voir d'où viennent les ingrédients, comment ils sont produits, comment ils sont acheminés peut-être, pour vraiment avoir l'image globale du produit.
Totalement. Et d'ailleurs, nous, c'est ce sur quoi on a travaillé avec l'AO ce mois, mais j'en parlerai plutôt tout à l'heure.
D'ici là, est-ce que tu as d'autres exemples de pratiques qui, selon toi, sont assimilées à du greenwashing en cosmétique?
Ouais, pour moi, il y a certaines campagnes de communication qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire que tel gel douche va sauver la planète, que tel produit va verdir. Enfin, c'est pas possible. Il faut être réaliste avec les gens, il faut être pédagogue. Nous, quand on est une marque, on sait quand on produit des produits qu'on pollue. Forcément, on produit quelque chose, on pollue, on va générer du CO2, on va exploiter le sol pour créer des hydrolats, on va cultiver, etc. Donc on va créer de l'impact, ok? Et pour moi, on peut pas dire qu'un produit qu'on a créé va sauver la planète. C'est pas, pour moi, c'est juste pas possible. Ça fait partie, pour moi, en partie de greenwashing. Il faut justement plutôt sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent l'impact et qu'ils apprennent à vivre avec une partie d'impact, où ils vont peut-être agir sur certains produits, et puis sur d'autres, ils n'auront pas envie de faire de compromis. On va pas non plus être moralisateur et forcer les gens à aller tous au green et tous au naturel. Si tout le monde change, ne serait-ce qu'une partie de sa consommation, on ira beaucoup plus loin que d'essayer de forcer tout le monde. Mais surtout, on ira plus loin en permettant à tout le monde de mieux comprendre ces produits et leur impact. Mais ça ne marchera pas si on fait croire qu'un produit cosmétique va sauver la planète.
C'est un peu les revendications, entre guillemets, excessives qui amènent le greenwashing. Et pour toi, la solution, c'est la pédagogie, c'est un achat en toute conscience.
Exactement. Pour moi, la solution, c'est l'information. C'est de mettre les informations dans les mains des consommateurs de la façon la plus claire possible, la plus ludique et la plus certifiée possible, j'insiste là-dessus, pour qu'eux puissent comprendre. Vraiment juste comprendre, avoir l'information. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Après, c'est chacun en son âme et conscience. On ne pourra pas forcer les gens de trop. Évidemment, il y a des réglementations, heureusement, dans certains domaines, dans beaucoup de domaines. Mais voilà, au moins faire de la pédagogie pour que ça vienne d'eux.
On a beaucoup parlé des ingrédients, finalement de la formule cosmétique, mais un cosmétique c'est aussi un packaging. Alors toi, tu as fait le choix de packaging en alu consigné. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Et après, est-ce que tu crois qu'il y a des pratiques autour du packaging qui amènent vraiment au greenwashing actuellement?
Bien sûr. Alors déjà, comment je suis arrivée à faire du liquide? Je pense que pour expliquer comment j'ai choisi un packaging et pourquoi je ne suis pas allée vers le solide, il faut expliquer pourquoi je suis allée vers le liquide à contre-courant de la grande tendance du moment. Alors déjà, parce que je me suis rendu compte que 95% du marché représentait liquide et qu'il y avait énormément de gens qui étaient complètement hermétiques à la solution solide. Je me suis dit, plutôt que d'aller sur un marché qui était déjà très bien exploité, où il y avait énormément de monde, autant aller faire un bon shampoing liquide avant d'aller faire du solide et d'aller résoudre le problème de beaucoup de gens qui, eux, n'étaient pas prêts à changer de typologie de produit. Donc ça, c'était, on va dire, un des axes qui a fait que j'ai choisi le format liquide. Ensuite, sur le liquide, donc, j'ai choisi l'aluminium parce que c'est un métal très léger, donc qui peut facilement se transporter, qui ne va pas forcément casser comme du verre sous la douche, qui va être extrêmement bien recyclable et recyclé dans les circuits français. Donc c'est un métal extrêmement versatile. En fait, il sert pour plein de choses. Évidemment, c'est pas une alternative parfaite parce que l'aluminium, ça reste quand même très polluant à l'extraction. Mais après, il est facilement consignable, facilement utilisable et donc il convenait à notre produit. C'est pas la solution idéale pour tous les produits cosmétiques, mais pour le nôtre, pour nous, c'était la meilleure solution. D'ailleurs, j'ai une super anecdote là-dessus. Moi, forcément, quand je cherchais un emballage plus écologique, ben, j'ai fait tous les salons possibles et imaginables. Donc, je suis arrivée dans un des plus grands salons dédiés au packaging cosmétique en 2020 et je suis tombée sur une sorte de kakémono, une publicité qui disait « Vous mettrez bien un peu de sucre dans votre polyéthylène ?» Et ça fait référence à, les packs en canne à sucre. Donc, ils prennent de la canne à sucre, ils le transforment en plastique. Et donc, c'est d'origine végétale, mais ça ne veut rien dire, c'est devenu du plastique. Mais c'est d'origine végétale, donc ils vont cultiver de la canne à sucre, faire croire des fois, je ne suis pas sûre, mais ils peuvent faire croire que c'est éthique ou que c'est des déchets, mais ça se peut aussi que ce soit de la culture. On ne sait pas, ça vient du Brésil, ça vient de loin, donc pour la traçabilité, c'est peut-être plus compliqué. Et donc, ils vont prendre cette canne à sucre, la changer en plastique et appeler ça du bioplastique. Donc forcément, les gens se disent, ah mais c'est génial, je peux le mettre dans mon compost. Et non. Ils vont dire que c'est biodégradable, mais en fait, ce serait biodégradable qu'en composteur industriel à 60 degrés pendant 3 mois. Alors que quand tu le mets dans ton composteur ménager, tu peux attendre longtemps avant qu'il se biodégrade. Donc pour moi, ça, c'est pas... pas du tout des vraies solutions et c'est juste pas possible de voir que dans des salons comme ça, on puisse allègrement faire du greenwashing. Et c'est presque humoristique, mais c'était un peu écœurant. Et dans les packagings, il y a aussi les doy packs, pour moi, qui ne sont pas une solution. Alors peut-être que maintenant, ils arrivent à en faire des recyclables. Mais moi, à ma connaissance, en tout cas, à l'heure actuelle, les doy packs, donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les petites recharges souples qu'on va utiliser pour remplir un flacon un peu plus épais avec un peu plus de plastique ou un autre matériau plus rigide. Pour moi, ce n'est pas une solution non plus parce qu'on a quand même une bonne dose de plastique non recyclable. Donc ça veut dire qu'on va remplacer un contenant recyclable par un contenant non recyclable pour remplir un autre recyclable. C'est pas forcément très logique. Je sais pas si tu m'as suivi.
Oui, effectivement, je vois où tu veux en venir. Après, c'est vrai que ces poches en plastique souple, je suis d'accord avec toi, elles posent problème parce que non recyclables et du coup, elles remettent un peu en question l'intérêt de la recharge. Pour autant, on sait que le plastique recyclable, il ne l'est que 3 fois. Donc j'imagine qu'il y a quand même une question de rapport quantité transportée, quantité de plastique utilisé pour voir si la solution, elle a vraiment un intérêt environnemental ou pas.
C'est ça, exactement. C'est après, il faut compter entre le gramme de produit et le gramme de plastique, combien on arrive à réduire le plastique, est-ce que les gens l'utilisent vraiment? Et puis d'ailleurs, est-ce que ce nouveau plastique, entre guillemets, de la recharge, lui, il est recyclable? Parce que c'est quand même assez important de ne pas trop créer un déchet en plus à brûler. Déjà qu'on sait que tout finit pas dans la bonne poubelle, alors si en plus de base, il n'a aucune chance.
Et justement, je reviens sur ces packs à base de canne à sucre dont tu parlais juste avant. C'est quoi la consigne de recyclage pour ces packs? Est-ce que tu le sais?
Eh bien, figure-toi qu'il n'y a pas de... À ma connaissance, encore une fois, il n'y a pas de consigne. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre du centre de tri. Tout dépend du centre de tri. Donc, tu vois, dans certaines communes... Le bac, il est jaune, il faut tout mettre dans le jaune. Dans certaines autres communes, il y a par exemple les pots de yaourt qui ne se mettent pas dans le jaune ou les paquets de jambon. Mais alors, dans d'autres, ça va fonctionner. En fait, ça va vraiment dépendre de ta commune et de ton centre de tri. Après, faut savoir que, à ma connaissance, encore une fois, ce pack en canne à sucre, on va dire, en bioplastique, qui n'a de bio que le nom, à mon avis, il sera recyclable en composteur industriel. Donc, pour qu'il arrive en composteur industriel, il faut le mettre dans les déchets verts. Mais les déchets verts récupérés par la commune, quand la commune le propose, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, la question, c'est est-ce qu'une fois arrivé au centre de tri, ils sont au courant que c'est compostable ou est-ce qu'ils vont se dire, tiens, ils ont jeté du plastique dedans et est-ce qu'ils ne vont pas essayer de le mettre finalement avec le plastique ou est-ce qu'ils ne vont pas le mettre à brûler directement? Ça, c'est des vraies problématiques. J'ai pas les réponses, mais je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on essaye de créer des nouveaux matériaux sans vraiment se soucier de comment ils vont finir. Ils vont vraiment finir en réalité au niveau des centres de tri. Donc il faut qu'ils travaillent un peu plus avec des organismes comme Citeo, par exemple, pour mieux trier.
Tu critiques pas sur le fond l'intérêt de ce type de produit, mais par contre, ça manque d'accompagnement, de pédagogie, de formation des différentes personnes tout au long de la chaîne de vie du produit pour vraiment y voir un intérêt concret à la fin d'utiliser ces nouveaux types de produits.
Exactement. Pour moi, déjà, il y a un problème de dénomination. Dire que c'est bioplastique, il y a un problème. Ensuite, il y a un problème de toute la chaîne de valeur. Donc, toute la chaîne de valeur n'est pas totalement maîtrisée, surtout les centres de tri, parce qu'à partir du moment où on fait un produit et qu'on revendique qu'il est plus écologique, il va falloir travailler sa recyclabilité. Alors, vérifier qu'il finit bien dans la bonne poubelle, qu'il finit bien recyclé. Et pour moi, ce n'est pas encore le cas, à ma connaissance, en tout cas, à l'heure actuelle. Donc, voilà, je pense que c'est juste, ce sont des matériaux sur lesquels il va falloir beaucoup travailler, justifier leur origine, parce que aller chercher de la canne à sucre au Brésil, est-ce que ça fait vraiment sens pour aller faire du plastique qui est utilisé en Europe? Voilà, il y a pas mal de sujets à travailler, mais pour moi, ça mérite quelques analyses de cycle de vie de bout en bout.
Pour toi, où se trouve la limite entre revendication marketing et greenwashing?
Pour moi, la limite, c'est la preuve. En fait, il faut savoir prouver ce qu'on dit et que ça relève du bon sens. Comme je te disais tout à l'heure, le bon sens, ça doit vraiment, vraiment, vraiment nous guider. Il faut que les marques fassent leur recherche sur l'impact. Des fois, elles ne vont pas prendre le temps. Alors, elles vont être très douées en marketing, mais elles ne vont pas forcément prendre le temps de faire des recherches sur leur impact, ne serait-ce qu'une petite analyse carbone, une analyse de cycle de vie, ça c'est pas facile, c'est assez coûteux. En tout cas, il y a pas mal de dispositifs pour accompagner les marques dans faire leurs recherches et ensuite comprendre l'origine de leurs ingrédients aussi, parce que c'est facile pour une marque de demander à tel labo d'aller chercher de la glycérine, mais il faut comprendre d'où vient vraiment cette glycérine, il faut aller demander les preuves, parce que plus on va le faire, plus les fournisseurs vont se dire, ah ben, tout le monde nous demande d'où vient la glycérine, elle vient de Chine, peut-être qu'on devrait essayer d'en trouver une plus locale. Voilà, donc ça va permettre d'aller faire remonter le besoin au niveau des fournisseurs également. Et pour moi, donc, il faut aussi que les marques soient honnêtes et transparentes. Quand on est totalement transparent, on ne va pas jeter des paillettes vertes aux yeux de ses clients, on ne va pas faire du greenwashing, on va juste factuellement expliquer les niveaux d'informations qu'on a, tout ce qu'on peut, pour laisser encore une fois le client choisir en son âme et conscience. Mais on ne va pas aller lui faire croire des choses qui ne sont pas le cas. Et pour moi, encore une fois, tu vois, moi, mon métier, c'est le développement produit, mais d'un point de vue marketing, donc bon, je suis un peu marketeuse, et ça fait mal au cœur quand on voit que le marketing, c'est carrément devenu une insulte, quoi. C'est de dire, ouais, ils font du marketing. Tu vois, pour moi, il faut vraiment qu'on remette le marketing à sa juste place, c'est-à-dire qu'on comprenne les besoins des clients, qu'on y réponde avec des alternatives innovantes et qu'on fasse des allégations, hein, des revendications qui sont basées sur la preuve. Et c'est juste indispensable et c'est ce qui manque un peu à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça que le greenwashing est condamné, hein, c'est parce que c'est pas légal. Tout comme certaines allégations mensongères, c'est un autre débat, mais des allégations mensongères ou trompeuses qui ne devraient pas être utilisées, pourtant que je vois utilisées tous les jours. Donc pour moi, il y a une partie de remettre les choses à leur place, y aller en respectant la loi, tout simplement, et en allant chercher des preuves.
Alors dans ton discours, il y a un mot qui m'interpelle. Tu parles d'explication et pas d'information. Pourquoi c'est important pour toi de parler d'explication quand tu mentionnes le fait de communiquer auprès du consommateur ?
Parce que donner une information, mais si elle n'est pas claire, ça ne sert à rien et les gens vont pas prendre le temps d'aller chercher, pas toujours. Alors de plus en plus, on a des consommateurs hyper experts. Alors maintenant, il faut donner, faut prémâcher toute l'information pour que ce soit plus de l'information, mais une vraie explication et qu'on aille sensibiliser. Tout comme moi, en 2019, quand j'ai eu les cheveux poisseux, j'aurais aimé qu'on m'informe et qu'on m'explique pourquoi j'avais les cheveux poisseux et comment j'aurais résolu mon problème. Si ça avait été fait à l'époque, j'aurais jamais créé là-haut, en fait. Tu vois, j'aurais pas eu besoin, mais j'ai eu besoin de créer là-haut parce que je me suis rendu compte que personne n'allait aider ces gens-là. Donc il faut informer, il faut expliquer, et pour ça, ça passe à travers de la sensibilisation avec des vidéos, avec des articles de blog, avec des vraies discussions. Et c'est vraiment aller de bout en bout. Par exemple, sur notre flacon même, alors que tu vois, quand on vend un produit via un revendeur, un salon de coiffure, on peut pas parler directement à notre client. Il faut que ça passe par le flacon ou par la personne qui le vend. Donc nous, par exemple, sur le flacon, à l'arrière, la liste d'ingrédients qui peut parfois être un peu compliquée à déchiffrer pour le commun des mortels, ce qui est normal, on l'a en deux colonnes, on l'a scindée. À gauche, on a le nom légal, parce qu'il faut quand même garder le nom légal, et à droite, on a l'explication. Donc on va dire la fonction de chaque ingrédient. C'est bête, hein, mais ça rassure, on sait ce qu'il y a dedans.
Et on voit que tu utilises pleinement tous les outils de communication à ta disposition, réseaux sociaux, site internet, podcast, QR code, pour communiquer avec tes consommateurs et passer les informations nécessaires.
Absolument, c'est ça. Il faut profiter de la technologie qui se développe pour aller apporter encore plus de transparence et apporter encore plus d'informations. C'est vrai qu'on est dans un monde où il y a carrément de l'infobésité. Des fois, on a trop d'informations. Mais je crois que quand on est une marque, il y a rarement trop d'informations qu'on peut apporter. En général, c'est plutôt l'inverse. Tu vas sur une page produit, tu vois qu'il y a trois lignes, il n'y a pas beaucoup d'informations. Des fois, la listing qui n'est même pas là, c'est un peu dommage. Donc nous, ce qu'on a développé, qu'on a lancé la semaine dernière, ce sont des QR codes à poser sur chacun de nos flacons, où tu peux scanner n'importe où, hein, tu es chez un salon de coiffure, tu es en ligne, tu peux scanner le QR code sur le site ou sur le flacon et avoir accès aux détails de fabrication de tous nos ingrédients. Et je peux te dire que ça m'a pris beaucoup de temps d'aller chercher tous les ingrédients, les sous-ingrédients, les pays d'origine. C'était beaucoup de travail, mais ça permet à mon sens d'aller sensibiliser, de rendre ludique aussi l'information, parce que bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas envie d'avoir un dictionnaire d'informations et de termes scientifiques, mais si on peut le rendre ludique via une app avec, une app sans téléchargement, où tu as une petite carte et tu vois directement sur une carte les points sur les différents pays d'origine des matières premières, c'est un premier pas vers la transparence on va dire généralisée. Et le tout, évidemment, certifié par la blockchain, donc la blockchain, ça va permettre d'ancrer et de rendre inviolable la donnée qu'on a publiée. Et ça, c'est fait grâce à notre partenaire Sorga, qui a travaillé dessus pendant des années et qui va fournir un passeport inviolable pour garantir l'authenticité des produits et l'authenticité des informations données sur les produits. Donc c'est vraiment un niveau assez inédit de transparence.
Tu donnes à ton consommateur non seulement l'information, tu prémâches l'information pour la mettre dans le contexte, lui aider à comprendre un peu les tenants, les aboutissants, et en plus, c'est un organisme qui te valide que cette information, elle n'a pas été, entre guillemets, enjolivée ou quoi que ce soit en cours de route. C'est vraiment une traçabilité depuis le tout début de la chaîne de production de ton ingrédient et donc de ton produit jusqu'à la fin.
Absolument, et tu l'as très bien résumé, on l'appelle de la graine au flacon. C'est vraiment une traçabilité de bout en bout. On a été le plus transparent, on a vraiment donné les informations qu'on avait. Les seules choses qu'on a gardées, ce sont les noms de deux fournisseurs, parce que bon, il faut garder un petit peu d'avantage concurrentiel, mais on a donné le nom de la plupart de nos fournisseurs aussi.
Ouais, ça c'est vraiment un degré, je pense, inédit de transparence.
C'est ça, voilà. Ben, on est allé le plus loin possible et on n'a pas honte de notre produit. On estime qu'on a fait la meilleure version qu'on est arrivé à faire au moment T et on l'améliorera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on a fait tout ce qu'on a pu. Et donc, on n'a pas honte d'aller dévoiler toutes les informations.
J'aimerais maintenant qu'on prenne le problème un petit peu à l'envers. Est-ce que tu ne crois pas, Lisa, que le manque de culture cosmétique du consommateur peut t'amener au greenwashing ?
Alors oui et non. En fait, je pense que le consommateur ne peut pas tout connaître sur tout ce qu'il consomme dans la vie, parce que entre le textile, alors quand tu achètes un vêtement, savoir les labels, le bio, l'alimentaire, les origines des matières premières, comment elles sont toutes faites, la cosmétique, l'automobile... On peut pas tout maîtriser, c'est absolument impossible, il faut être conscient de ça. Moi, par exemple, je connais très bien la cosmétique, mais je connais assez mal le textile et l'automobile, j'en parle même pas. Pour moi, c'est à la réglementation de s'appliquer et de protéger les pratiques trompeuses. Alors oui, il y a des réglementations. En France, on est vraiment très très bien au niveau réglementation. On a un règlement européen, on protège énormément le consommateur. Maintenant, il faut l'appliquer. Donc, on a des règles. Maintenant, il faut que les différents organismes aillent appliquer ces lois et que tout le monde soit fair-play. Et joue avec les mêmes armes. Donc ça, c'est hyper important, parce que tout le monde, à l'heure actuelle, parle de naturel, mais il y a 40 nuances de naturel, il y a du plus-plus et il y a du moins-moins, et il faut donner les clés aux clients et aux consommateurs pour bien les comprendre. Pour moi, le greenwashing, ça reste encore très récent, c'est pour ça que c'est pas assez encore encadré par la loi, et les contrôles, malheureusement, sont assez peu fréquents.
Alors, tu parles de 40 nuances de naturel, pourtant, depuis 5 ans, il y a quand même... une norme, la norme ISO 1628 pour les connaisseurs, qui permet à toutes les marques de cosmétiques de calculer le pourcentage d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle de leurs produits de la même façon. Ça va quand même dans le bon sens, c'est positif, ça clarifie les choses pour le consommateur.
Absolument, ah oui, je pense qu'à partir du moment où on apporte une information claire, réglementée, lisible et on va dire appliquée à tous les différents partenaires, ça peut que être positif.
Et alors, il y a la réglementation, les normes, mais est-ce que tu ne crois pas que la marque a un rôle essentiel là-dedans ?
Je pense que c'est la responsabilité de la marque d'éduquer son client, comme je le disais, de transmettre des informations honnêtes, des allégations. On a toujours envie d'être plus, il faut être plus que le voisin, il faut aller plus loin. On est plus bio, on est plus naturel, on est plus si. Mais parce que le voisin le dit et pas nous, ou va se permettre de dire des choses et pas nous, qui des fois sont fausses, eh bien on passe pour moins, on a l'air d'être moins engagé, moins écolo. Moi, pour ma part, j'ai renoncé à certaines choses, certains mots, pour être plus transparente. Et ça me fonctionne quand même, tu vois. C'est-à-dire que j'ai, de la part de mes clients, j'ai quand même une image très transparente, très authentique. Ce sont les mots qu'ils utilisent pour nous décrire. Et pourtant, je ne vais pas utiliser certains mots. Il y a certains mots que je vais éviter. Dans un registre parallèle, sur le cheveu, il y a beaucoup de méconnaissance du cheveu de la part des consommateurs et de la part des marques, c'est assez inquiétant. Par exemple, il y a des marques qui vont dire qu'on peut hydrater un cheveu tout comme on peut hydrater la peau. Or, le cheveu est une matière morte. C'est quand même le béaba de comprendre son organisme, enfin, l'organisme quand on crée un produit pour cet organisme-là. À ce moment-là, en tant que marque, on ne peut pas continuer à dire hydratation et nutrition. Tu vois, il va falloir à un moment utiliser d'autres mots, comme par exemple gainé, enrobé. Le cheveu. Et donc pour nous, ça passe par un wording qu'on utilise qui n'est pas forcément connu du client, mais qui permet de l'éduquer au fur et à mesure.
Donc tu sous-entends que toutes les marques n'ont peut-être pas suffisamment d'expertise dans la problématique qu'elles adressent avec leurs produits.
Absolument, et dans le naturel, c'est d'autant plus criant qu'on voit des marques qui vont se lancer dans plein de produits différents. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais sur une petite marque, ça peut être problématique. Par exemple, une petite marque qui va lancer un déo, un shampoing, un gel douche, une crème hydratante, comment elle va pouvoir avoir le temps de vraiment se pencher sur la peau, de vraiment se pencher sur le cheveu, de vraiment se pencher sur la transpiration, qui sont des choses très différentes. Pour moi, c'est un bon début que de créer une expertise dans un domaine. Bon, ok, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire aussi des crèmes pour le visage parce que j'adore la cosmétique pour le visage. Mais non, je vais faire que du cheveu parce que je veux d'abord bien explorer le cheveu et bien résoudre les problèmes des clients sur le cheveu. Et après, j'irai sur d'autres domaines, tu vois, peut-être. Mais d'abord, on va bien se concentrer sur une expertise. Et je pense que c'est aussi un gage de confiance, un positionnement plus clair.
Alors on l'a dit, le consommateur, il n'est ni expert de la cosmétique, ni expert de la peau ou du cheveu. Mais du coup, est-ce que tu ne crois pas que ça laisse de la place à certaines marques ou certaines personnes pour communiquer autour de sujets qui sont globalement acquis en cosmétique et de jouer là-dessus pour paraître innovant alors qu'en fait, ils ne le sont absolument pas?
Si, et malheureusement, comme tout à l'heure sur beaucoup d'allégations, on continue. Et aussi parce que des fois, le client n'est pas au courant. Et donc, il va aller chercher ces allégations-là qui, des fois, sont interdites. Un exemple très, très concret, c'est le fait de ne pas tester le produit sur les animaux. On va le voir des fois même sur des packagings, en grand sur les sites internet, alors qu'en fait, c'est interdit sur les produits. C'est déjà interdit depuis des années sur les produits finis. Et qu'en plus, les sous-traitants, eux, ne donnent pas toujours les informations sur les tests des ingrédients sur les animaux. Surtout avec la réglementation REACH qui est un petit peu diverse. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste continuer à afficher des choses qui sont évidentes. C'est comme si moi, je disais sur mon shampoing que dedans, il n'y a pas de cyanure et d'éléments radioactifs, tu vois. Je veux dire, de base, on n'allait pas en mettre dedans et c'est interdit. Donc, je ne vais pas commencer à dire qu'il n'y a pas de cyanure dans mon shampoing, tu vois. Et continuer à dire c'est pas testé sur les animaux alors que c'est déjà interdit, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux, à la rigueur, pour rassurer, on peut dire non testé sur les animaux, comme le stipule la réglementation. Déjà, c'est plus exact. Ça, on peut le faire, je pense. Mais aller en faire un argument marketing parce que c'est un manque de culture sur la cosmétique, bon.
Et donc là, ce que tu décris, c'est utiliser un élément de la réglementation pour en faire un élément marketing. Est-ce que ça, c'est pas greenwashing ?
Bah oui, pour moi, c'est pas forcément du greenwashing, mais ça va être, c'est une forme de mensonge, ouais. C'est une forme d'exagération. On va surfer sur le besoin de réassurance des gens sur certains points. Donc on va accentuer dessus son discours marketing parce que derrière, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre à revendiquer, tu vois. Les marques qui vont le plus accentuer sur des choses au mieux inutiles, ce sont des marques qui vont faire moins. C'est-à-dire, ils font plus de sans que de avec, tu vois. Ils sont sans sulfate, sans silicone, sans trucs, sans machin, pas testés sur les animaux. Mais alors, il y a quoi dans ton produit, tu vois? Nous, chez Lao, on n'a pas sur nos produits écrit sans sulfate, sans silicone. D'ailleurs, sur notre site, non plus. Par contre, on va te dire ce qu'il y a dedans et on va te dire que dedans, il y a des ingrédients d'origine naturelle. Il y a beaucoup d'actifs. Il y a des actifs qui sont bons pour X choses. Que les actifs, eux, seuls, ont été identifiés pour X choses. Que le produit en lui-même a été testé pour X choses. Et voilà, et on va aller sur des choses avec du bon sens, finalement.
Ça nous ferait une belle conclusion, ça. Est-ce qu'une marque sans greenwashing, ça serait pas d'abord une marque qui communique avant toute chose sur ce que contiennent ses produits plutôt que sur ce qu'ils ne contiennent pas ?
Mais tu l'as mieux dit que moi encore. C'est exactement ça. On va communiquer sur ce qu'on a dans le produit. Il est temps d'aller au-delà de ce qu'il n'y a pas. Parce que ça, c'est aussi surfer sur la peur du conso. Et aujourd'hui, on a envie de surfer sur du positif et de faire émerger des belles initiatives et de faire évoluer notre secteur pour qu'il soit encore plus sympa, parce qu'on est quand même dans un domaine hyper sympa qui fait rêver. Donc ce serait dommage de faire une surenchère au greenwashing, une surenchère aux allégations. On a juste envie de voir des bons produits, des bons ingrédients, des coulisses de producteurs et voilà, d'aller sur une cosmétique positive.
Eh bien, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir partagé avec nous ta passion vraiment communicative pour la cosmétique et d'avoir partagé avec nous ta vision sur le greenwashing et les allégations, l'honnêteté en cosmétique. On te souhaite vraiment plein de succès dans ta campagne de communication sur la transparence, notamment grâce à ces fameux QR codes au dos de tes produits là-haut. Et puis un immense succès avec la commercialisation des shampoings là-haut qu'on adore et que vous pouvez dès à présent retrouver sur The Beauty Nerd.
Merci à toi, Elodie. Et à bientôt.
À très bientôt, Lisa. Et encore merci. Alors nous, ce qu'on retient de cet échange passionnant, c'est déjà que le greenwashing, c'est un effet de communication qui laisse penser qu'un produit est plus vertueux pour l'environnement que ce qu'il n'est en réalité. La première chose à vérifier pour l'éviter, c'est de chercher les preuves de ce qui est avancé. Pour ça, un super outil qui est en train d'émerger, c'est l'utilisation de la blockchain qui permet de retracer l'entièreté de la vie du produit en toute transparence. Et c'est ce que Lisa met en place chez Lao avec ses fameux QR codes que vous pouvez dès à présent trouver sur tous les flacons. Un petit conseil, se méfier des associations d'idées, ce n'est pas parce qu'un produit est vegan qu'il est forcément naturel, et ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément éthique ou plus vertueux pour l'environnement. Une petite astuce pour reconnaître une marque qui communique avec sincérité et transparence, eh bien tout simplement, elle va parler de ce qu'il y a dans son produit et beaucoup moins de ce qu'il n'y a pas ou des ingrédients qui ont été évités. Côté packaging, on veillera à avoir toutes les informations en main. Alors bien sûr, on va se renseigner auprès de la marque ou du revendeur pour avoir les consignes de fin de vie, de recyclabilité ou de consignes. Mais surtout, on ira se renseigner auprès de notre collectivité locale pour savoir si notre packaging est effectivement recyclable là où on vit. On ira justement plus loin sur ces questions de packaging, de recyclabilité et d'impact environnemental lors de notre visite au salon Luxpack de Paris. On a vraiment hâte. Alors d'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés aux Beauty Nerds.